à tous. Comme un vendredi, retour sur l'œuvre d'un sociologue qui a compté, Zygmunt Bauman, décédé lundi. Le théoricien de la société liquide a marqué la sociologie du XXe siècle. Quels étaient ses concepts phares? Quelles pensées lucides a-t-il développé sur nos sociétés? Qui s'en revendique et en quoi est-elle toujours d'actualité? François de Singly et Brice Couturier nous rejoindront pour en discuter à partir de 12h55. Mais d'abord, concours d'éloquence avec Kerry James qui a conçu et joue en ce moment à vif jusqu'au 28 janvier. L'État doit-il être jugé coupable de la situation actuelle des banlieues? Pour un oui ou pour un non, sur la scène du Théâtre du Rond-Point, le rappeur fait flamber le verbe sur une question qui est bien plus qu'une affaire de mots. Il est notre invité à écouter maintenant sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Dans les bacs, il a sorti son 8e album solo, Mohamed Alix, le 30 septembre dernier. Un retour en musique remarqué au Zénith le mois dernier, en tournée tout l'hiver, à l'Olympia les 14 et 15 mars prochains. En librairie, au printemps, il publiera une autobiographie « Banlieusard et fier de l'être » comme des lettres L-E-D-T-R-E-S, où il revient sur son parcours de la Guadeloupe à la métropole, de la violence à la parole. Sur scène, double plaidoyer pour la liberté et la responsabilité. L'un l'accuse, l'autre défend. Sur le banc des prévenus, l'État, dans sa toute-puissance, est-il coupable d'avoir abandonné les quartiers?
L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Mesdames et messieurs les jurés, il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres, plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité? Non, la simple présence de gouvernants n'exonère pas de fait les gouvernés de toute responsabilité, sauf pour celui qui prétend considérer tout gouverné comme on considère un enfant et qui souhaite attribuer la parenté de chacun de ses enfants au gouvernant. Mais la banlieue n'est pas une immense crèche à ciel ouvert peuplée de nouveau-nés. Il y a en banlieue, comme partout en France, des gens désireux de prendre pleinement part à leur propre histoire et à celle du pays. Des gens qui ne vivent pas nécessairement en réaction à. Des gens qui veulent se sentir responsables. Responsables de leur choix. Responsables d'eux-mêmes.
Les arguments sont très convaincants dans cet échange dont on a entendu un extrait. Là, plutôt d'un monologue, les passes d'armes sont vives, à vif, à interprété à deux voix, deux robes d'avocat, celle du rappeur Kerry James et celle de Yannick Landrin, fait se rencontrer et dialoguer deux France, celle du centre et celle des marges. Bonjour Kerry James.
Bonjour.
Je vais vous laisser la parole maintenant. Les avocats, comme les rappeurs, est-ce qu'ils sont des... On peut dire que ce sont des baveux, des bavards. Vous savez, c'est le surnom qu'on donne aux avocats qui dépensent finalement beaucoup de salive pour défendre les causes qui leur tiennent à cœur, les uns comme les autres, les rappeurs comme les avocats.
En tout cas... Il n'y a pas beaucoup de métiers que j'aurais souhaité faire si je n'avais pas fait de la musique et maintenant du théâtre. Mais parmi les métiers que j'aurais souhaité faire, il y a celui d'avocat et celui de journaliste aussi. Et finalement, je pense que je l'ai fait à travers ma musique, puisque parfois j'ai été défenseur de gens qu'on a mis en marge de la société. Et parfois j'ai été un journaliste, même un journaliste de terrain, et j'ai raconté certaines réalités qui nous sont parfois cachées. Donc je pense que à l'origine, oui, il y a une similitude entre le métier d'avocat et le métier de rappeur, puisque le rap, l'essence du rap et d'être social et revendicatif et de prendre la défense. Mais malheureusement, cette essence s'est beaucoup perdue aujourd'hui dans le rap français, même dans le rap américain, où il n'y a plus beaucoup de fond. Mais à l'origine, oui, il y avait une vraie similitude.
À vif, c'était votre idée?
Oui, bien sûr. À l'origine, j'ai écrit un scénario de long métrage
Que vous allez bientôt tourner.
C'est ça, et qui donc on tourne cet été en 2017 et qui sortira en 2018 et qui raconte l'histoire de trois frères dont l'un des frères est, qui est le en fait le héros du film, le personnage principal qui s'appelle Souleymane Traoré et il est élève avocat à l'EFB et il participe à ce fameux concours d'éloquence, le concours de la petite
conférence. L'EFB, c'est l'école française du barreau.
Exactement. Et il arrive en finale et il fait face à son rival qui s'appelle Yann. Et la question qu'il leur est posée, c'est l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France ? Et Souleymane est contraint de défendre la position négative. Non, l'État ne l'est pas. Et Yann est contraint de fustiger l'État et donc ça donne lieu à une joute verbale. Seulement dans le film, j'étais obligé de beaucoup de restreindre les plaidoiries parce que c'est pas évident à l'image d'avoir quelqu'un qui fait un long monologue et donc on était obligé de restreindre et je me suis dit je vais en faire une pièce quand même parce que j'avais écrit de longues plaidoiries quand même et donc on en a fait une pièce, voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est vous donc qui avez pensé à conçu à Vif, c'est donc vous qui avez réparti les rôles.
Ouais, c'est moi qui ai décidé d'interpréter.
De qui serait qui d'interpréter,
de qui dit
d'être,
quoi aussi.
D'être qui, alors l'avocat du diable, on peut le dire.
L'avocat. En fait, je pense que si on regarde bien, si on écoute bien, d'ailleurs on le voit à la fin, les deux en fait prennent la défense des banlieues. Que ce soit celui qui fustige l'État ou celui qui dit, malgré les difficultés, il nous appartient de faire changer les choses et notre propre situation. Et donc je pense qu'en fait les deux sont au service des banlieues. Mais bon, mon discours est plus difficile à entendre et mon adversaire s'en saisit. Il me traite de Bounty, noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Mais en réalité, c'est un discours qui est juste aussi.
Mais vous vous défendez très bien. Si j'étais l'État, je vous prendrais volontiers comme avocat. On est d'accord. Donc sur scène, l'avocat des causes perdues, c'est pas vous, a priori. Vous avez pas le beau rôle. La banlieue, pour vous, justement, c'est une cause perdue, aujourd'hui ?
Non, il y a beaucoup de belles choses. Il y a beaucoup de belles choses en banlieue, beaucoup d'énergie, beaucoup de talent et... Je partage l'avis de ceux qui pensent que s'il doit y avoir un véritable changement en France, il se peut que ça provienne de la banlieue.
C'est pour ça qu'elle mérite d'être défendue ?
Bien sûr, elle mérite d'être défendue, puisque il y a en banlieue des Français, qu'on traite souvent comme des Français de seconde zone, et qu'on a cantonné dans un rôle que parfois ils se plaisent maintenant à jouer eux-mêmes. Voilà.
La défendre en nommant une situation sociale, en faisant un état des lieux à un instant T, c'est ce que vous avez choisi de faire. Vous le faites aussi dans ce rapport entre l'État et les habitants de banlieue. Pourquoi sont-ils si compliqués aujourd'hui ? C'est ce que raconte la pièce, hein, finalement. À quand remonte le divorce pour vous, Kerry James ?
Ben, je pense que Yann, mon adversaire, l'explique bien dans la pièce. Et il fait remonter tout ça quand même à l'origine du terme banlieue qui est être au banc des lieux. Et il faut savoir que on a fait venir des immigrés en France. Et le but était qu'ils travaillent tout simplement. Et moi, il m'est arrivé de parler avec des Français d'origine algérienne. D'une cinquantaine d'années à peu près, et qui se rappelle que je parlais avec quelqu'un qui habite Saint-Dizier et qui me rappelait que quand il est arrivé avec sa famille, les cités dortoirs étaient construites près des usines, c'est-à-dire que les parents étaient venus pour travailler et on pensait que les enfants iraient aussi à l'usine. Et systématiquement, on les orientait vers les voies professionnelles. Et donc, je pense que on n'a pas mesuré, on n'a pas pensé que ces gens auraient d'autres ambitions, d'autres projets, que ces gens resteraient, et on n'a pas mesuré les conséquences. C'est la version la plus soft. La version la plus soft, c'est que ce soit un manque de qu'on n'a pas prévu tout ça. Parce que si ça a été voulu et organisé, comme le dit Yann dans la pièce,
qui défend,
alors c'est beaucoup plus grave.
Populaires.
C'est beaucoup plus grave.
Enfin, lui, il dit de toute façon, même si ça n'avait pas été prévu, aujourd'hui, c'est quand même eux qui sont aux responsabilités.
Ils auraient dû le prévoir.
Et qui devraient gérer cette situation, récolter ce qu'ils ont semé, même s'ils ne pensaient pas que ça aurait de telles conséquences à un moment ou à un autre. Si j'en reviens juste à votre rôle dans cette pièce, à cette défense de l'État que vous tentez d'opérer en répondant à cette question. L'État est-il responsable? L'État est-il coupable d'avoir abandonné les quartiers? Vous vous positionnez sur en défense de l'État, mais surtout du côté de la population, en refusant de tomber dans la victimisation, c'est le terme que vous employez, refusant de présenter les habitants des quartiers comme une société d'assistés. C'est très fin, c'est sans caricature, votre argumentaire est extrêmement solide. Peut-être parce qu'il y a une part de vrai aussi dans tout ça, et que vous êtes vous-même convaincu un petit peu par ce que vous défendez.
Très convaincu même. Si vous voulez, cette pièce, c'est le résumé de trois morceaux importants dans ma carrière. Un morceau qui s'appelle « Lettre à la République », qui est une lettre très dure, très radicale, que j'ai adressée aux responsables politiques, dans laquelle je fustige les politiciens.
Oui, j'allais vous dire justement en 2012, avec cette lettre à la République, vous n'avez pas toujours été si mesuré, vu. Alors, je ne sais pas si ça a encore augmenté, plus de 9 millions de fois sur YouTube, autant dire l'impact et l'écho que ça a pu avoir, ces mots dans votre voix. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que de vos mensonges. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout est arrivé à son départ. Vous avez souhaité immigration grâce à elle. Vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être sensé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Un extrait d'ailleurs de cet extrait de Lettre à la République. On l'entend aussi dans Avif.
Voilà.
Donc ça, première étape.
Première étape. C'est aussi
là, vous n'y allez pas de main morte.
Ouais.
Bon, c'était important.
Deuxième étape, banlieusard, qui est un morceau, qui est un hymne à la réussite que beaucoup de banlieusards considèrent comme leur hymne. Et qui est un morceau dans lequel j'incite les banlieusards à aller au bout de leurs projets et à ne pas être dans la victimisation, justement. Et le troisième morceau, c'est un morceau qui s'appelle « Constat amer ». Qui est un morceau dans lequel je pointe du doigt nos propres contradictions, où je parle du racisme qui existe entre Africains, ou du manque de solidarité qu'on peut trouver en banlieue, où dès que quelqu'un sort à la tête de l'eau, les autres s'empressent d'essayer de lui replonger. Et je pense que cette pièce est le résumé de ces trois morceaux. Donc,
incapable de s'organiser en lobby, on sera toujours des mendiants aux portes de leur monde, sur cette impossibilité à faire communauté, peut-être.
Donc, je pense que ce que dit Yann est vrai, et je pense que ce que dit Souleymane Traoré est vrai également.
Qu'est-ce que c'est, maître, l'IVDBF?
À l'IVDBF, c'est l'indemnisation de victimisation et de dépendance totale des banlieues françaises. Donc c'est une taxe, c'est la taxe Jarodière, un truc que j'ai inventé, parce que l'idée c'est de dire que si l'État était seul responsable de la situation actuelle des banlieues, alors on pourrait imaginer que les habitants des banlieues se constituent partie civile et exigent réparation. Et donc il faudrait une nouvelle taxe, un nouvel impôt pour payer ces réparations.
Ouais. Vous l'avez en tête ce moment? Vous pouvez nous en jouer un extrait?
Ah, donc ça dit... qu'est-ce que l'IVDBF? Donc l'IVDBF, c'est l'indemnisation de victimisation et de dépendance totale des banlieues françaises. Bon, j'admets que c'est peut-être un peu trop long, trop compliqué à prononcer, mais son abréviation serait l'IVD, un nom qui pourrait servir d'appellation à une nouvelle drogue du 21e siècle. Mesdames et messieurs les jurés, après le hashish, la cocaïne, l'héroïne, le crack, le LSD, voici l'IVD. Alors, contrairement à l'héroïne, l'IVD ne rend pas accro dès les premières injections. On ne voit pas venir l'IVD, on n'en sent pas immédiatement les effets. Et on ne se rend même pas compte qu'on en est devenu accro, mais à force d'en fumer, d'en sniffer ou de s'en injecter, on finit par voir partout la main du système et la responsabilité de l'État. L'accro à l'IVD peut se retrouver à dire « je ne trouve pas de travail, ce n'est pas parce que je n'en cherche pas, non, petite dose d'IVD, c'est la faute de l'État français ». Voilà.
Merci beaucoup. À vivre, c'est aussi une pièce sur les déterminismes, le leitmotiv, qui est l'un des vôtres d'ailleurs, Kerry James. Personne n'est condamné à l'échec. Alors que Souleymane, l'avocat que vous incarnez, met en avant la force, le talent, le courage, l'intelligence de certains. Yann, votre opposant, votre avocat détracteur, qui considère lui que vous êtes atteint de l'Alzheimer des pauvres, que vous êtes monté par l'escalier parce que l'ascenseur social était en panne pour cause de maintenance. Lui, il insiste sur l'idée que les faibles doivent aussi être soutenus. La République ne devrait pas seulement protéger les exceptions comme vous, les talentueux. L'État ne devrait pas laisser les faibles à l'abandon. La responsabilité individuelle, on peut dire qu'elle peut beaucoup, Kerry James, au final, mais elle peut pas tout.
Ouais. Elle ne peut pas tout. J'en suis pas sûr. Par exemple, c'était un grand défi pour quelqu'un comme moi de se retrouver au théâtre du Rond-Point. Et en fait, ça fait 25 ans que je défonce des portes pour enfin être au théâtre du Rond-Point. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas fait en 5 ans, ça s'est pas fait en 10 ans, ça s'est fait en 25 ans. Mon premier disque est sorti en 1992. Et donc, je pense qu'avec de la détermination, on peut faire face à certaines choses que les gens considèrent comme des fatalités. Mais après, c'est une question aussi de, il y a une part en fait, c'est ma nature qui est comme ça. C'est-à-dire, face à l'adversité, je redouble d'efforts, et tout le monde n'est pas comme ça, c'est sûr.
Au théâtre du Rond-Point, vous y êtes en tout cas,
ouais.
Kerry James. Et vous avez pris le temps pour y arriver. Parfois, c'est comme ça, il faut savoir prendre le temps. Midi 20 sur France Culture avec le rappeur Kerry James.
S'effondre, chaque vie passée est un assemblage de secondes. Nos sourires prennent des rides, nos souvenirs la poussière. Le temps n'est jamais rigide, aujourd'hui deviendra hier. À force de se précipiter, on fait les choses à moitié. Ma vie est une construction qui semble tous les jours en chantier. Loin de ma famille, j'écris ce texte au studio. Mes pensées s'éparpillent, je vois grandir mes gosses en photo. J'ai tant de projets en attente, mais ma mort est latente. J'ai peur de m'en aller sans avoir profité de leur présence. J'ai besoin de prendre le temps, d'avancer en m'arrêtant, respirer, laisser le temps à l'amour de m'inspirer.
Prends-le, dis-le, deviens-le, pleinement, ni trop vite, ni trop lent. Prends toujours le temps, saisis l'instant.
Prends le temps. Avec Fada Freddy, prend le temps, extrait de votre dernier album sorti en septembre dernier, Mohamed Ali, c'était l'une de vos étoiles noires.
Ouais, c'est quelqu'un qui compte pour moi, quelqu'un qui a su dire non à la guerre du Vietnam. Donc j'ai appelé mon album Mohamed Alix en référence à ce grand personnage avant même d'être un grand boxeur.
Et dans cet album, on retrouve aussi vos engagements, mais aussi vos questionnements, et pas simplement sur l'état de la société, sur la vie, sur l'amour, sur la famille, c'est ce qu'on entend dans, dans Prends le temps. Vous avez une famille, vous ?
Oui, j'ai une famille, j'ai des enfants.
Et se pose la question de la transmission, alors. Qu'est-ce que vous, vous leur transmettez à vos enfants ? Quelles sont pour vous les valeurs essentielles ?
Les valeurs essentielles...
À part celle de prendre son temps.
J'essaie de leur apprendre à être... aimant. Et c'est marrant parce que souvent, comme maintenant, j'ai une, par exemple, j'ai une grande fille qui a 6 ans et j'ai un petit qui a 3 ans. Et on, je vois la façon dont la, la plus grande prend soin de, du plus petit. Et je pense que si elle le fait, c'est parce que nous aussi, on a su en prendre soin d'elle. Et donc, et on lui a appris à faire attention aux autres, à être aimante et tout, et je pense que c'est, voilà, c'est important.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Depuis la MJC d'Orly jusqu'à votre duo avec Charles Aznavour, en passant par le cri hardcore asséné avec Idéal J de Bercy, au bout du Nord, vous en avez fait, vous, du chemin Kerry James, mais au fond, est-ce que vous avez beaucoup changé ?
Non, je. Il m'arrive parfois, très rarement, mais d'écouter de vieilles chansons. Et parfois, ça fait même très peur. Je dis la même chose depuis. Si vous écoutez mes premiers albums, qui sont sortis, mon premier album qui est sorti en, 1996, c'est des morceaux que je peux encore interpréter aujourd'hui. Sans donner d'explication, c'est toujours moi.
Ouais. Dans Avif, Yann cite Malcolm X, il y a les nègres des champs et les nègres de maison. Cette idée de la pression d'un monde d'où l'on vient, du clan, est-ce qu'on vous a vous reproché d'avoir à un moment changé de camp, de vous être assagi ?
Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, c'est très étrange de reprocher à quelqu'un de s'être assagi. C'est le but de la vie quand même, c'est d'aller vers la sagesse. Mais non, on ne m'a jamais reproché ça. On ne me le reprochera pas parce que même, je vous ai dit, il m'a fallu du temps pour arriver jusqu'au théâtre du Rond-Point. Mais j'arrive au théâtre du Rond-Point sans me dénaturer, sans porter un masque. C'est Kerry James qui vient au théâtre du Rond-Point avec un discours toujours aussi radical. La pièce se termine par une lecture de lettres à la République. C'est justement ça qui a du goût et qui fait que la pièce, je pense que elle plaît aux gens parce que c'est un discours vrai, véritable. Il y a pas de non-dit.
D'ailleurs, le traître, et vous l'évoquez un peu dans cette pièce, c'est pas celui qui s'en est sorti dans le regard des autres, c'est plutôt celui qui aurait oublié d'où il vient. Je suis pas un héros, je fais des liaisons dangereuses. C'est l'un des titres de votre dernier album. Vous êtes quoi alors, Kerry James ? Un poète noir, un militant, un porte-parole de la banlieue, un porte-voix de la contestation ?
Poète noir, militant, ça me va.
On oublie les autres, on les
raille. Porte-parole de la banlieue, c'est pas à moi de le dire, mais c'est à la banlieue de le dire. Et en tout cas, quelqu'un qui se bat.
Les mots, Kerry James, vous les présentez comme des armes, mais on sent aussi qu'ils ont été, à un moment ou à un autre, votre bouée de sauvetage, qu'ils vous ont apporté beaucoup. Je vous propose d'écouter juste un extrait de À voix haute, un documentaire qui a été diffusé en novembre dernier sur France 2, réalisé par Stéphane de Freitas, à la Fac de Saint-Denis. Le film montre un groupe de jeunes qui participent à un concours d'éloquence, maîtriser le pouvoir des mots, savoir ce que l'on dit de soi et ce que l'on montre de soi aux autres quand on parle en public.
Déjà, je suis issu d'un quartier assez difficile, on va dire, où bien parler est plus une tare qu'autre chose. En fait, j'ai grandi dans un endroit où plus les mots étaient rébarbatifs, étaient durs, plus on était respecté. C'était plus à base, je sais qu'il faut pas utiliser de gros mots, mais pour bien décrire dans le milieu dans lequel j'ai grandi, c'était plus à base de, wesh ma gueule, nique ta mère et tout, ça passait mieux qu'un, ouais, je voudrais dire que par ma pensée, j'avais beaucoup d'admiration pour ces grands orateurs, pour ces politiciens, plutôt. Même Sarkozy, j'admirais beaucoup quand il se mettait là, de sa petite taille, avec ses talonnettes et tout, il se mettait là, il disait, ouais, je veux réformer le parti, je veux une France unie, soudée. Je veux une France libre Et ah, je me dis, mais putain, je te crois pas, mec, mais qu'est-ce que. mais qu'est-ce que tu m'emportes? Et un autre discours politique qui m'a beaucoup marqué, c'est le discours de Gaulle à la Libération. Paris libéré, Paris martyrisé, je sais plus exactement les termes, mais c'était très, très galvanisant. Et je me suis dit, mais c'est cool de parler en fait. C'est bien d'écrire, mais parler, c'est mieux. Parce que quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Et c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est parce que ça peut changer ma vie.
On l'entend, la façon dont on s'exprime est un marqueur social qui peut aussi marginaliser à vif votre pièce. Kerry James nous montre aussi que même avec les meilleures intentions du monde, personne n'est à l'abri de ses propres préjugés et que des idées reçues, il y en a finalement des deux côtés. Vous disiez que l'intention pour vous, c'était faire se rencontrer ces deux France, ce « eux » et ce « nous », parce qu'on n'est peut-être pas si différents et dans ce qui peut nous rapprocher, pour apprendre à se parler, à vivre ensemble, pour faire communiquer ces deux France, il faut peut-être commencer par parler la même langue.
Ouais, bien sûr, il faut avoir un langage commun. Et puis aussi, plus que parler, il faut aussi savoir écouter.
Et parler à voix haute quand on veut s'exprimer. C'est ce que nous dit c'est aussi mieux. Ce documentaire. Bon, vous êtes optimiste?
Est-ce que je suis optimiste?
Peut-être pas.
On est tellement bas, tellement loin. Qu'est-ce qui peut arriver de pire?
Et qu'est-ce qui peut arriver de mieux?
Une réconciliation peut-être.
Entre ces deux mondes et ces deux
France. Entre ces deux France.
Qu'elles apprennent à se parler. Merci mille fois, Kerry James.
Merci à vous de m'avoir reçu, c'était super.
Non, vous êtes le bienvenu à voir en ce moment à vif au Rond-Point, à Paris, près des Champs-Élysées. Mais le spectacle va tourner aussi, en même temps que vous, vous tournez pour votre dernier album, Mohamed Alix, tout seul, en solo ou avec votre bande. Merci bien.
Merci.